RCF.
Déjà 18h10, vous écoutez RCF, c'est l'heure du 18-19 en région. Alexis Claudretz va tout nous dire du programme.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour vous accompagner ce mardi 18h10, 19h, le 18-19 en Champagne-Ardenne. Peut-être que vous nous écoutez en DAB+, ou que vous soyez sur le territoire du côté d'Épernay, du côté de Châlons-en-Champagne, du côté de Reims, de Charleville-Mézières, de Sedan, de Vouziers, de Rethel. Et on est très heureux d'être avec vous, de vous accompagner avec Jean-François Boulanger qui nous rejoint en studio. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
L'épisode 7 consacré au 15e centenaire du baptême de Clovis. J'allais dire, on en voit le bout. Quel sera le focus plus particulier de ce soir?
Alors aujourd'hui, la dernière fois, on a parlé des critiques que cette commémoration avait suscité du côté de certains courants laïcs très à gauche. Et là, on va voir comment l'Église, notamment Monseigneur de Foix, répond à ces critiques.
Très bien, on vous retrouve dans quelques secondes pour en parler. Nous sommes également avec Mélissa Tavares qui vous a concocté la météo. Elle a levé la tête, elle a regardé ce qui tombait du ciel. Et pour l'instant, pas de pluie, mais des nuages gris au programme. Ça sera la même demain, mercredi.
Exactement.
Bon, on espère toujours que les conditions iront en s'améliorant. Mélissa, vous êtes avec nous jusqu'à la fin de semaine. Annoncez-nous du soleil au moins une fois pendant votre stage. Ça pourrait nous faire plaisir et nous donner à tous de sourire.
Elle ne quittera pas la radio tant qu'il n'y aura pas du soleil.
C'est ça, on la retient. Il n'a pas de vacances pour Mélissa, tout à fait. C'est le mot juste de Jean-François Boulanger. Il est passé nous faire un petit coucou. Lui, il n'est pas tout à fait en vacances. C'est Gabriel Rigobert. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, pas de sujet particulier à développer lors de cette émission ce soir, mais si vous souhaitez intervenir, vous êtes un petit peu en fil rouge, n'hésitez pas.
Merci beaucoup.
Vous aurez la parole. Au programme également, Arnaud Linin, qui est le maire de Bouvancourt dans la Marne, qui sera le maire qui nous parle donc ce soir au micro de Jean-Pierre Benoît, que l'on retrouvera aussi avec Frédéric Lajoux, directeur départemental de la Marne d'Enedis. On ira faire un tour du côté du collège Anne-Franck de Saint-Dizier avec une expo originale de la classe archéologie qui sera présentée par leur professeur Laurent Bastien. Jean-François, peut-être que vous connaissez.
Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Il y a une très bonne classe de justement d'initiation à l'archéologie, donc en Haute-Marne, c'est formidable.
Et voilà, on voit qu'entre historiens, tout le monde se connaît finalement, le monde est petit, le réseau est bien tissé.
Celui des historiens en tout cas.
Tout à fait, et puis on parlera aussi du carême avec Marie-France Gabriel de la paroisse de Saint-Mémy, ça sera donc dans le diocèse de Châlons, et tout ça, ça sera après le journal régional de 18h30. À 18h13, on commence nous avec Jean-François Boulanger pour regarder sur le monde. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
15e centenaire du baptême de Clovis, épisode 7, l'Église répond aux critiques. Nous avons vu dans l'émission précédente comment l'Église, au moment de la célébration du 15e centenaire du baptême de Clovis, s'était trouvée face à de très vives critiques exprimées au nom de la laïcité par une partie de la gauche. Comment l'Église réagit-elle face à ces critiques, Jean-François?
Oui, alors, il faut d'abord constater que ces critiques ne se font jour qu'à partir du moment où l'événement apparaît dans les radars des médias. Et cet événement apparaît dès lors que la venue de Jean-Paul II à Reims s'est clairement envisagée. C'est ça qui va déclencher les hostilités, si je puis dire. En novembre 1994, en effet, Monseigneur Balland peut, je cite, « confirmer que le pape Jean-Paul II espère répondre à l'invitation du président de la conférence épiscopale de venir en France en 1996 et dans ce cadre faire étape à Reims ». Et il se trouve que peu avant, le cardinal de Courtrai était mort donc le 16 septembre 1994 et que Monseigneur Balland va aller être appelé à lui succéder. Et donc un peu plus tard, le 9 juin 1995, Monseigneur Balland apprend qu'il va quitter dans un délai rapproché le diocèse de Reims et le lendemain, il prononce sa dernière homélie pour la fête de Jeanne d'Arc. Donc il profite de ce dernier message adressé à ses diocésains pour parler de Jeanne d'Arc, bien entendu, mais aussi du 15e centenaire qui s'annonce. Et il dit, je cite, « Ce dernier n'a pas seulement pour but d'établir ou de rappeler une vérité historique, c'est, comme celui de Jeanne, un message très pratique et très nécessaire à notre temps. Il ne s'agit pas de je ne sais quel rééquilibrage institutionnel ou politique dans notre pays. »
Jean-François Boulanger, vous doutez bien que si vous nous donnez de tels éléments, on a envie de savoir à quoi vous faites allusion quand vous parlez d'un rééquilibrage institutionnel ou politique dans notre pays.
Eh bien, ça fait allusion à ce que craignent les intégristes de la laïcité, que j'ai évoqué tout à l'heure, les laïcistes, si je puis dire, c'est-à-dire une remise en cause de la séparation de l'Église et de l'État. Et il ajoute, je cite toujours, « Il s'agit bien plus profondément de savoir ensemble et avec toutes nos sensibilités, c'est-à-dire catholiques ou autres, hein, ça c'est mon commentaire à moi, retrouver dans notre histoire commune le ressort qu'il a fait pour que dans l'incertitude de notre société actuelle, nous ne manquions ni de lumière, ni d'énergie, ni de hauteur de vue, sous-entendu en dépassant les polémiques de l'instant, ni d'espérance. » Il termine en disant « Je confie à Notre-Dame de Reims, à Saint-Remy et à Sainte-Jeanne d'Arc cette mission que vous aurez à accomplir pour le bien et le rayonnement de notre pays. » Mais c'est au nouvel archevêque de Reims que va revenir la tâche d'accomplir concrètement cette tâche.
On parle donc de Monseigneur de Foix.
Voilà, parce que sa présence puis son départ de Reims sont largement liés en fait à la célébration du 15e centenaire. Il arrive à Reims le 4 septembre 1995, Monseigneur Ballan étant parti à Lyon le 27 mai. On peut considérer que la période de vacances du diocèse de Reims a été relativement courte compte tenu des usages du Vatican. Surtout si l'on considère qu'elle correspond pour une large part à une période de congé d'été pendant laquelle l'actualité est limitée. Pourquoi ? Parce qu'il convenait de ne pas laisser longtemps le diocèse de Reims sans direction, à un moment où se préparait justement la venue du pape. Alors qui est Monseigneur de Foix ? Eh bien, il a une formation de sociologue, il a été recteur de l'Institut catholique de Lyon, et donc c'est quelqu'un qui est armé pour le débat intellectuel. Et un peu plus tard, en 2008, 12 ans après l'événement, le journal La Croix le présentera, au moment où il quitte le diocèse de Lille, comme celui qui a déminé le terrain sensible de l'anniversaire du baptême de Clovis. Et donc, effectivement, ce travail accompli, il va partir à Lille le 2 juillet 1998 et il va y rester 10 ans.
Puisque vous évoquiez son aptitude au débat intellectuel, Jean-François, quelle va être la réponse de Monseigneur de Foix aux critiques laïcistes ?
Alors d'abord, il devient un personnage médiatique, si je puis dire. On le voit dans les grands médias, les médias de grande audience, par exemple l'émission télévisée Bouillon de Culture de Bernard Pivot, ou dans le grand jury RTL. Mais il le fait aussi dans le bulletin du diocèse de Reims, le 10 février 1996, dans un article intitulé « Le paradoxe républicain », où il pose la question du sens de la commémoration dans les termes suivants, je le cite, « Comment un État laïque peut-il rappeler qu'il tient son identité première d'un baptême chrétien ? Que peut être le contenu de cette commémoration ? C'est le paradoxe républicain d'aujourd'hui. »
Il pose une question, il y apporte une réponse, on suppose ?
Bien sûr, et voilà ce qu'il dit. « Parce que je ressens chez nombre de mes interlocuteurs un malaise, il faut être clair sur ce point. Nous n'entendons pas annexer l'histoire et l'identité française. » Nous ne voulons pas récuser l'acquis de la Révolution qui a proclamé les droits de l'homme, l'idéal de liberté, d'égalité, de fraternité comme socle moral de la nation. Nous ne rêvons pas d'un retour en arrière des structures et des institutions juridiques ou politiques de notre pays. Autrement dit, il répète ce qu'avait dit quelque temps auparavant Monseigneur Ballan que j'ai cité tout à l'heure, mais de façon beaucoup plus explicite.
Quels sont les arguments qu'il produit pour appuyer cette affirmation ?
Alors, il reprend les faits sur lesquels s'appuient ses contradicteurs pour les réfuter un par un. D'abord, le précédent du 14e centenaire en 1896. Sa réponse est la suivante à ce propos. Nous ne sommes plus en 1896 et même alors, le cardinal Langeigneux, mon prédécesseur, ne voulait pas de ce retour aux institutions d'avant 1789. Il savait mieux que quiconque les ambiguïtés politiques de cet anniversaire. Il a tout fait pour garder son caractère religieux aux célébrations du 14e centenaire, l'engager vers le 20e siècle. Il revient également sur les célèbres paroles de Jean-Paul II au Bourget, « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Et à ce propos, il rappelle que le pape a également évoqué ce jour-là les droits de l'homme, on l'avait un peu oublié. On sait la place que, je cite le pape, « On sait la place que l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité tient dans votre culture, dit le pape, dans votre histoire. » Au fond, ce sont là des idées chrétiennes. Je le dis tout en ayant conscience que ceux qui ont formulé les premiers cet idéal ne se réfèrent pas à l'alliance de l'homme avec la sagesse éternelle, mais ils voulaient agir pour l'homme.
Quelle conclusion, Monseigneur de Foix, tire-t-il de cette analyse, Jean-François ?
Alors, je le cite encore une fois, « Clercs et laïcs se rejoignent, ils se reconnaissent un patrimoine moral commun, liberté, égalité, fraternité. » Et c'est bien pourquoi la tradition chrétienne et la nation surgie de l'action de Clovis, 10 ans après son baptême, se sont rencontrées dans notre histoire. De cette alliance sont nées des sensibilités, des idéaux, dont nous sommes ensemble les héritiers. Les uns et les autres, nous avons des dettes à l'égard de cette gerbe de valeurs ou de convictions qui ont nourri des siècles de vie nationale. Elles fondent les relations morales entre l'Église et l'État sur l'humanisme qui nous rassemble dans l'unité de la nation. Nous avons ensemble à faire l'avenir, dit-il toujours, dans une France aux multiples héritages et une nation en perpétuelle genèse dans le dialogue des cultures, des religions et des idéaux spirituels. Mais en fait, c'est lors du voyage du pape que le débat va trouver son terme, et je puis déjà vous le dire, la guerre de Reims n'aura pas lieu.
Merci Jean-François Boulanger, on vous retrouvera dans l'épisode 8 pour plus d'informations. On clôt cette chronique, et c'est du direct également. On a Gabriel qui avait une question pour vous. Peut-être que vous avez déjà apporté réponse dans les épisodes précédents, mais on l'écoute. Gabriel, une question.
J'avais une question. Dans un monde qui se veut de plus en plus laïque en France aujourd'hui, est-ce que au futur centenaire qui aura lieu à la fin de ce siècle, est-ce que ce sera encore un débat qui arrivera sur la place publique?
Le futur centenaire, donc dans 2096.
Oui, tout à fait.
Alors je ne serai pas là déjà, c'est sûr. Hein. Est-ce que ça aura un sens? On a quand même beaucoup de temps à voir. C'est difficile à dire, mais moi je pense que c'est une question qui risque de se poser toujours. En tout cas, la question de la laïcité depuis 1996 n'a fait que prendre de l'ampleur et évoluer. C'est-à-dire qu'elle se pose pas forcément dans les mêmes termes, parce que en 1996, là, c'était l'Église catholique qui était montrée du doigt. Aujourd'hui, ça va être d'autres religions, l'islam pour ne pas la citer, qu'on évoquera. Mais ça, c'est un autre débat. L'historien en parlera peut-être, mais ça sera pas moi, je pense pas.
18h22 sur les ondes de RCF.
Le 18-19 sur RCF.
Avec un maire qui nous parle, avec nous ce soir à 18h22, Arnaud Ninin, l'édile de Bouvancourt, s'entretient avec Jean-Pierre.
Arnaud Ninin, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le maire de Bouvancourt. C'est l'occasion pour nous de situer un peu la commune. Elle est dans les Ardennes ou elle est dans la Marne?
Alors, la commune de Bouvancourt, c'est une commune qui est au nord-ouest du département de la Marne. On est contigu au département de l'Aisne, tout à fait au nord-ouest.
Monsieur le maire, on est content de vous avoir et d'en savoir un peu plus sur votre commune. C'est combien d'habitants aujourd'hui, à peu près, Bouvancourt?
Bouvancourt, c'est environ 180-190 habitants. Il y a quelques années, on était à plus de 200. En ce moment, c'est légèrement en baisse.
Et vous êtes vous-même, Arnaud Ninin, maire de Bouvancourt, depuis combien de temps?
Alors moi, j'ai été élu en 2020, la dernière mandature. J'ai succédé à M. André Hubert, qui avait été maire pendant 31 années consécutives.
Mais alors, vous étiez peut-être déjà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maires qui apportent leur témoignage, déjà au conseil municipal, vous étiez peut-être déjà adjoint, vous étiez déjà un peu au courant du fonctionnement d'une commune.
Oui, j'avais fait la mandature précédente, j'ai été deuxième adjoint pendant 6 ans.
Alors, quand on parle de la commune de Bouvancourt aujourd'hui, c'est des retraités, c'est des agriculteurs, est-ce qu'il y a des quelques jeunes qui arrivent ou des gens qui disent « Ah ben, on est mieux habité à la campagne qu'en ville » et c'est aussi parfois, à la suite du Covid, il y en a qui ont décidé de ça, par exemple.
Alors, à la suite du Covid, on n'a pas eu beaucoup de mouvements à la suite du Covid. Mais en majorité, alors il y a quelques familles qui sont des Bouvancourtois de longue date, et on a quand même une forte population de personnes jeunes qui travaillent sur Reims ou en environ.
Et ça fait combien de kilomètres de Reims, justement? Parce que là aussi, on aime bien la campagne, mais on se dit il faut pas être trop loin non plus.
Non, mais grosso modo, par rapport au nord de Reims, secteur Neuvillette, on est à 17 km, et secteur Tinqueux, c'est à peu près la même distance.
Oh mais c'est rien, 17 km. Parce que quelqu'un qui habite à l'autre bout de Reims, qui travaille à l'autre bout de Reims, les kilomètres, il est fait presque. Hein.
Ah oui, le matin, en 20-25 minutes, on est au faubourg de Reims. Hein.
Alors justement, monsieur le maire, on dit toujours que de tous les élus, et c'est cette mission que les Français considèrent comme la plus proche. Un député, un sénateur, un conseiller départemental. Bon. Mais le maire, c'est celui qu'on voit tous les jours. Vous connaissez tous les habitants de Bouvancourt, pratiquement?
Oui, oui. Je les connais quasiment tous et tous me connaissent.
Et vous étiez né vous-même à Bouvancourt? Vous étiez un enfant du village, comme on dit?
Non, moi je suis un Bouvancourtois assez récent. Ça fait une trentaine d'années que j'habite sur la commune. Moi je suis originaire des Ardennes.
Ah, et de quelle commune dans les Ardennes? Ça c'est intéressant.
de Cliron.
Cliron,
une petite commune,
bien
à
sûr,
côté de Charleville-Mézières,
qu'on connaît bien parce que je me souviens, c'est un peu une remarque personnelle, je me souviens que dans ma jeunesse, quand nous passions à Cliron, il y a très longtemps, sur la route de Tournes, après Tournes,
oui,
nous rencontrions les frères Beugnot, qui étaient les grands basketteurs. Ils avaient de la famille à Cliron et ils étaient toujours devant leur maison le dimanche. Je ne sais pas si vous avez connu, parce que vous êtes beaucoup plus jeune, vous, Arnaud Ninin, mais c'était les grands du basket dans les Ardennes, de l'Étoile de Charleville-Mézières.
Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne les ai pas connus.
Alors, revenons à la commune de Bouvancourt. Est-ce qu'en ce moment, vous avez un ou deux projets? Souvent, on dit, on essaie de rendre le village un peu plus propre, un peu plus accueillant. On va essayer d'avoir une fleur ou deux fleurs, ou je ne sais pas. Où vous en êtes, vous, monsieur le maire?
Alors moi, j'ai la chance d'avoir un conseil municipal qui est assez actif, des personnes qui s'occupent de la commune, qui s'occupent du fleurissement, du désherbage, et des gens qui sont des conseillers qui sont très actifs, et d'autres qui ne sont pas membres des conseils, mais
qui
donnent facilement un coup de main. Et j'ai la chance d'avoir deux associations actives sur la commune qui font vivre la commune. Et ce qui est important, c'est pas une commune dortoir. C'est une commune où il fait bon vivre, où tout le monde se connaît, où tout le monde se rencontre régulièrement autour d'une galette des rois, d'une fête patronale, d'un festival photo. On a un festival photo qui va fêter sa 10e année cette année, le 23-24 mai.
Donc c'est bientôt, peut-être qu'on aura l'occasion de vous... Ça c'est une bonne idée, parce que peut-être que dans la semaine qui précède, je me permettrai peut-être de vous rejoindre pour faire un petit peu de pub, parce qu'on peut participer même de l'extérieur à ce festival photo.
Alors c'est un festival photo qui est organisé sur la commune de Bouvancourt, mais qui n'était pas entièrement organisé par Bouvancourt. C'est le club photo de Wison, qui il y a une dizaine d'années cherchait un endroit, un petit village pour organiser son exposition. Et depuis, ça perdure, et ça perdure bien, ça augmente chaque année, la fréquentation augmente, et on est en partenariat. Nous, on est les aidants à Bouvancourt, on est les aidants, on fournit des locaux, un peu de matériel, etc., pour que tout se passe bien, pour que le club puisse s'organiser et inviter des photographes de marque.
Vous disiez, Arnaud Ninin, que les personnes aiment se retrouver. Ça, c'est caractéristique maintenant des demandes des habitants. Dans les villes, c'est assez anonyme. On ne connaît pas parfois son voisin de l'étage du dessus ou du dessous dans les appartements. Mais là, ça veut dire que le week-end, de temps en temps, vous avez parlé de la galette des rois, mais il peut y avoir d'autres rencontres l'été, on va se retrouver. C'est un esprit un peu plus familial. Et ça, les gens sont très attachés à ça maintenant.
Oui, c'est familial, c'est amical. Tout le monde sur Bouvancourt, tout le monde connaît ses voisins et tout le monde se rencontre plusieurs fois dans l'année. C'est très courant.
Alors, monsieur le maire, on a abordé le village, la beauté du village, l'embellissement. Bon, il y a des travaux peut-être qui sont en cours, qui sont prévus, et que ce soit dans le cadre de l'assainissement, de la voirie, de plusieurs choses.
Oui, actuellement, là, le gros projet de 2024, c'est la réfection de la façade de la mairie. C'est une mairie assez ancienne qui date de la reconstruction d'après-guerre, parce que le village avait subi beaucoup de dommages pendant la guerre 14-18. Et donc là, on refait la façade, on va lui donner un coup de jeune, on va la garder dans son style, parce que je pense que c'est important, ça ne sert à rien de changer le style.
Absolument.
Le style de la mairie. Et les Bouvancourtois, ils sont très attachés d'ailleurs. Donc on va lui donner un bon petit coup de jeune. Et puis à court terme également, pour l'année 2025, c'est la réfection de la voirie, une rue, la rue de Ventelet, c'est sur la départementale numéro 30. Et là, c'est en partenariat avec le département, le Grand Reims également, le CIEM, etc. Donc c'est beaucoup d'intervenants pour refaire une rue, pour enfouir les réseaux.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a quand même pour les maires, comme pour beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de contraintes administratives qui sont sans doute très très lourdes. Il y a des exigences environnementales, etc., etc. Mais ça plaît quand même aux habitants, parce que ça va redonner quand même, bon, pour cette rue, un petit coup de jeunesse quand même, pour la façade de la mairie. Bon, tout ça, mine de rien, quand on fait l'addition, ça compte.
Oui, tout à fait, tout a un coût. Évidemment, on obtient les subventions, hein, on arrive à avoir des aides de l'État, du département, Mais bon, il y a toujours forcément un reste à charge pour la commune. Et sur les petites communes, on n'a pas beaucoup de rentrées d'argent, hormis la taxe foncière et l'aide de l'État, on n'a pas grand-chose. Hein. Donc, la gestion de la commune, c'est une gestion, je dirais, en bon père de famille. Quoi. Il faut toujours...
On regarde son toujours, budget.
Voilà, regarder le budget et toujours garder une poire pour la soif. Parce que,
bah oui. Bah,
par exemple, ce matin, il y avait quelques petits dégâts dans l'église dû à un petit dégât des eaux. Et donc, il a fallu refaire ça.
Ah oui, ensuite, c'était pas prévu, ça. Hein, il va falloir... Écoutez, Arnaud Ninin, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le maire de Bouvancourt. On reparlera du Festival Photo, si vous le souhaitez, dans quelques semaines. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. Et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous deux, Arnaud Ninin, Jean-Pierre Benoît, 18h31, le journal régional sur RCF. Avec les titres de ce mardi 20 février, des job dating autour de l'intérim auront lieu ce mercredi après-midi à la mission locale de Châlons-en-Champagne. Présentation. Le docteur Azem El Shafai donnera ce jeudi une conférence sur l'Égypte antique à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, dans le cadre du parcours culture et religion.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
En partenariat avec France Travail, la mission locale de l'arrondissement de Châlons organise les rendez-vous de l'intérim. La mission locale de l'arrondissement de Châlons organise les rendez-vous de l'intérim. Alexandra Denis, chargée de projet à la mission locale de Châlons.
L'idée a été venue déjà de France Travail de faire l'événement chez eux, de réunir toutes les agences d'intérim et donc réunir aussi les candidats et faire sous forme de job dating au mois de septembre l'année dernière. Et donc on s'est mis d'accord avec France Travail pour faire au premier semestre que ça soit la mission locale qui le fasse de son côté. C'est bien de rassembler toutes les agences ensemble et avoir un certain nombre de candidats qui viennent se présenter sous forme de job dating. Parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, nous, plus spécialement en mission locale, c'est que le jeune ne vont pas directement en agence. Ils ont du mal à ouvrir la porte de l'agence, de se présenter en agence. Donc là, on s'est dit, un événement qui n'est pas commun sur le territoire peut les faire venir plus facilement vers les agences.
De nombreuses agences d'intérim seront présentes dans les locaux de la mission locale de Châlons. Alexandra Denis nous présente le déroulement de la demi-journée.
Ça se déroule à la mission locale, dans nos beaux locaux de la mission locale. Les candidats seront accueillis par nos collègues de la mission locale et France Travail. Et ils pourront aussi bénéficier d'un atelier coaching, s'ils le souhaitent, pour les rassurer, pour les détendre un petit peu. Parce que quand on parle de job dating, se présenter auprès des entreprises, les gens, ils se crispent un petit peu, sont stressés. Et donc là, ça leur permet d'avoir un petit coup de pouce par rapport à leur présentation. Et ensuite, ils pourront se rediriger vers les agences qui seront dispatchées sur 3 salles. Où pourront se présenter les candidats.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Les rendez-vous de l'intérim se tiendront ce mercredi 21 février de 13h à 16h30 au 8 avenue de la Gare à Châlons-en-Champagne. Un autre rendez-vous pour les étudiants, c'est la nuit de l'orientation et de l'étudiant demain au parc des expositions de Charleville-Mézières. Le rendez-vous, c'est à partir de 13h jusqu'à 21h. Il concerne les collégiens, les lycéens, les étudiants et les adultes hors orientation. Entrée libre, n'hésitez pas à vous y rendre. On le présentait d'ailleurs hier dans le 18-19 en Champagne-Ardenne. Risque de pollution dans la Meuse et la Semois suite à un vol de cuivre dans l'usine Infrabel située à Marbehan entre Florentville et Arlon en Belgique. Entre 14 et 17 000 litres d'huile contenant des PCB se sont écoulés dans la Mélier, un affluent de la Semois. Les Belges ont interdit la pêche. Pour le moment, aucune décision n'a été prise dans les Ardennes où l'association Robin des Bois a demandé à la préfecture de repousser l'ouverture de la pêche prévu le 9 mars et d'ordonner des analyses. Un dossier complet est à retrouver en page 4 chez nos confrères de l'Union ce jour. C'est le moment d'élire le nouveau village préféré des Français pour l'émission de France 3 présentée par Stéphane Bern. Les votes sont ouverts jusqu'au 8 mars. La commune de Monthermé dans la vallée de la Meuse dans les Ardennes représente le Grand Est en 2024. À noter qu'il y a quelques mois dans un divertissement du même genre, au moment d'élire le monument préféré des Français, le château de Sedan avait été lauréat du concours. Ce qui avait boosté les visites sur le site historique de la ville. Les défis inédits de la société interrogent chacun d'entre nous. Pour mieux mesurer ces enjeux et se sentir mieux informé, l'Institut catholique de Paris Campus de Reims organise en 2024 un nouveau parcours culture et religion que présente Audrey Gineste, chargée de communication à l'ICP Reims.
Alors, nous avons déjà eu une conférence en janvier avec notre archevêque, l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric Demoulin-Beaufort. Sur le thème, c'était « En quoi les chrétiens ont-ils le devoir de se former ?» Et la prochaine conférence, nous aurons le docteur Hazem El-Shafei, qui fera une conférence le 22 février sur « Égypte antique, examen de naissance de la foi ». Nous avons après d'autres intervenants, comme par exemple Monseigneur Étienne Véteux. Le docteur Hazem El-Shafei reviendra sur l'Égypte antique et expliquera d'où la naissance de la foi est arrivée dès son arrivée dans la vallée du Nil. Donc, il expliquera, il ira très en profondeur sur ce sujet-là.
Le rendez-vous avec le docteur Hazem El-Shafei est fixé ce jeudi 22 février de 18h à 20h à l'ICP Reims. Les modalités d'inscription sont données par Audrey Gineste.
Ils peuvent s'inscrire sur Internet, directement retrouver le lien sur le site de l'ICP sur la page Campus de Reims ou sur culture-religion2024.eventbrite.fr. Ou sinon, ils peuvent également s'inscrire par téléphone au 03 10 00 87 50 ou par mail en envoyant un mail à b.hiverneau@icp.fr.
Audrey Gineste au micro de RCF Reims-Ardenne, entrée par le 6 rue du lieutenant Erdouin. Toutes les informations sont à retrouver sur le site icp.fr. À 18h37, avant de refermer ce journal, place à la météo avec Mélissa Tavares. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce mercredi ?
Mercredi, le ciel de notre Champagne-Ardenne sera d'une couleur grisonnante tout au long de la journée. Le matin, dans l'ensemble des départements de la Champagne-Ardenne, le temps sera assez triste ou le ciel sera couvert de nuages sombres. Les températures attendues seront froides ou les températures les plus basses seront de 4 degrés au minimum et de 8 degrés pour les plus hautes. L'après-midi, pas de changement, sauf pour les... Oula.
L'après-midi, on est en direct, Mélissa. Attention, il n'y a pas de houla, on reprend, on y va là.
Excusez-moi, l'après-midi, pas de changement, sauf dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, dont quelques précipitations qui seront attendues, mais ce sera de courte durée. Le mercure grimpera très légèrement de quelques degrés, où il montera jusqu'à 11 degrés pour les plus maximums. Oula. Demain, nous fêterons les Pierres d'Amien. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
La prochaine fois que je vous abandonne, Mélissa, je reviens, je vais vous voir réviser la météo. Fini les discussions avec Fabrice, Thierry, Gabriel, tout ça. C'est terminé. Le chat n'est pas là, les souris dansent. On va mettre des règles, on va mettre les souris en cage. Merci, se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
18h38, on va parler carême désormais sur RCF. Gabriel, vous vous rappelez, vous aviez participé il y a quelques années lorsqu'on demandait aux jeunes comment ils vivaient le carême notamment.
Eh ben, je participe toujours au carême cette année par contre.
Vous y participez toujours, mais on vous avait interrogé il y a quelques
Évidemment.
Années sur comment vous le viviez, etc. Cette année, sur l'antenne de RCF Reims-Ardenne, on va à la rencontre de prêtres, de religieux du diocèse de Reims et des Ardennes. Avec nos amis de RCF Cœur de Champagne, on va aussi rencontrer différents fidèles de nos diocèses sur leur façon de vivre cette période de 40 jours qui nous mène jusqu'à Pâques. Témoignage ce soir de Marie-France Gabriel de la paroisse Saint-Mémy, près de Châlons-en-Champagne. C'est avec Christopher Fausten. Bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir Jean-Pierre. Et oui, durant ce temps de carême, témoignage des fidèles de la province de Reims. Et ce soir, je vous propose le témoignage de Marie-France Gabriel, paroissienne du côté de Saint-Mémy, près de Châlons-en-Champagne. Bonsoir Marie-France.
Bonsoir Christopher.
Marie-France Gabriel, qu'est-ce que le carême pour vous et comment vivez-vous ce temps de carême ?
Le carême, pour moi, c'est un chemin pour se préparer à Pâques, un chemin pour essayer de mieux vivre notre foi.
Et comment vivez-vous personnellement ce temps de carême ?
Alors, je dirais, moi, mes petites astuces pour mieux intégrer ce qu'est le carême. Déjà, je dirais, pour moi, le petit jeu de mots que j'aime beaucoup, au lieu d'écrire carême tel qu'on le connaît, on pourrait écrire car, C-A-R, et plus loin, M, A-I-M-E, du verbe aimer. Ça, j'aime beaucoup ce sens-là. Donc, un chemin pour mieux aimer. Et puis le carême, bon, c'est une période avec des petits points particuliers. Et mon petit, pareil, mon moyen mnémotechnique, c'est les trois P comme prière, partage, pénitence. Donc c'est des chemins, des moyens qui nous sont donnés sur notre chemin pour essayer de mieux aimer le Christ et en même temps mieux aimer nos frères, je dirais. C'est un temps où on essaye un peu de se recentrer, de moins se disperser dans tout ce qui fait un peu les soucis qui nous dispersent, enfin qui nous éloignent de Dieu. Donc mieux se recentrer sur la parole de Dieu, essayer d'être mieux à l'écoute. Bon, moi j'avoue, je la lis un peu sur mon ordinateur avec l'Évangile au quotidien. Bon, il y a la prière personnelle, mais aussi des temps qui nous sont proposés par l'Église. Et je dirais aussi que l'Église est là pour nous aider à mieux vivre le troisième point qu'on appelle pénitence, ce moment où on essaie de faire un effort, de se priver. Là, je sens que c'est le point le plus difficile pour moi. Par exemple, le jeûne, j'ai un peu du mal avec le jeûne. Et puis, on peut jeûner de beaucoup de choses, mais c'est quand même difficile à mettre en action. C'est un gros effort. Et donc, je pense que là, l'Église est là pour nous aider à mettre un petit peu ces différents moyens de ce temps de carême. On peut s'aider entre frères et puis en Église à mieux vivre le carême. Alors, je dirais aussi sur le carême que, en temps normal, je sens le poids de mon péché, de mes défauts, et donc ce poids du péché, je dirais que le carême, c'est un temps pour nous aider justement, au lieu de baisser les bras, à se dire bon, on peut peut-être prendre le problème bras le corps. Alors il y a le temps de la confession avant Pâques, effectivement. On nous propose un temps de confession, et là, il y a les 24 heures du pardon, ou les 12 heures du pardon. Voilà, là, je me dis que le carême, c'est un moment où on peut se dire, allez, on va peut-être prendre un petit peu le problème un peu plus à bras le corps, et on va demander l'aide de Dieu pour nous aider un peu à lutter contre ce péché qui nous empêche d'avancer sur notre chemin vers le Christ et vers Pâques.
Merci Marie-France Gabriel, paroissienne du côté de Saint-Mémy, près de Châlons-en-Champagne, d'avoir partagé votre témoignage sur les ondes de RCF en région. À très bientôt.
Merci Marie-France Gabriel, merci Christopher Fausten, le tout depuis les studios de RCF à Châlons-en-Champagne. Évidemment, l'ensemble de ces chroniques sont à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr.
Le 18-19 sur RCF.
Jean-Pierre est là, un nouvel invité aussi en studio, désormais Frédéric Lajoux, directeur départemental d'Enedis dans la Marne.
Frédéric Lajoux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous Frédéric Lajoux. Alors, c'est vrai qu'on a envie de vous poser la première question. C'est quoi Enedis ?
Alors tout d'abord, moi je vous remercie de me donner l'occasion de présenter la société pour laquelle je travaille à vos auditeurs et de faire connaître davantage cette entreprise qui est un peu unique en son genre. Enedis tout d'abord a été créé en 2008, suite à la disjonction entre les différentes activités du système énergétique français. Et c'est une entreprise industrielle, tout d'abord, qui construit des réseaux électriques, aériens et souterrains, pour vous apporter l'électricité dont vous avez besoin au quotidien, et quel que soit le lieu où vous habitez, quel que soit votre statut, que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous vous apportons l'électricité 24 heures sur 24.
Transport d'électricité, donc, essentiellement.
Pas transport.
Pas uniquement le transport, non.
C'est la distribution.
Distribution d'électricité.
Il y a une autre société qui s'appelle RTE, Réseau de Transport d'Électricité, qui, elle, transporte l'électricité depuis les centres de production. Et donc, nous sommes bien un distributeur. Nous ne sommes pas un producteur d'électricité. Nous ne produisons pas d'électricité nucléaire, d'énergie renouvelable, de gaz ou autre. Nous ne sommes pas non plus des fournisseurs. Nous ne vendons pas d'électricité, d'électrons. Nous sommes bien ce lien entre la production et la consommation, entre les producteurs et les consommateurs.
Ça veut dire aussi que vous travaillez avec les collectivités locales, avec les villes, avec les agglomérations, avec les villages, parce qu'il faut amener cette électricité.
Absolument. Et d'ailleurs, les collectivités locales sont propriétaires des réseaux. C'est une particularité du système français. Enedis gère, exploite, modernise, développe les réseaux, mais n'en est pas propriétaire. Les réseaux appartiennent aux collectivités locales, qui, pour certaines, l'ont transféré à des syndicats d'électricité. Ici, dans la Marne, c'est le syndicat d'électricité présidé par M. Dezotel et M. Moura, le SIEM, qui est propriétaire des réseaux. Et donc, les réseaux sont le patrimoine commun des Français.
Alors, Frédéric Glajoux, dans le département de la Marne, ça représente à peu près combien de salariés, combien de personnes travaillent aujourd'hui en 2024, en gros, hein, pour Enedis?
Comme je vous l'ai dit, notre boulot, c'est d'acheminer les électrons entre un site de production et un site de consommation. Pour cela, nous avons dans la Marne plus de 350 salariés et dans la région Champagne-Ardenne, on a à peu près 850 à 900 salariés pour faire cela. Il y a 12 000 km de réseau à entretenir, à développer, à moderniser dans la Marne. C'est à peu près la distance entre Reims et le Cap de Bonne-Espérance. C'est vous dire le défi qui est le nôtre au quotidien. Et en France, nous avons 1,4 million de kilomètres carrés de réseau à entretenir. C'est 35 fois
c'est
le tour de la Terre.
C'est quand même impressionnant. 1,4
million de kilomètres, pardon, soit 35 fois le tour de la Terre.
Frédéric Glajoux, on comprend, en gros, encore, vous allez revenir hein, sur ce qu'est Enedis, mais c'est une entreprise, évidemment. Mais est-ce que on pourrait dire que c'est une entreprise pas comme les autres? Alors, en quoi elle est différente des autres?
Oui, Enedis, c'est une entreprise, mais finalement, qui a une caractéristique particulière, c'est une entreprise de service public. Nous sommes chargés par l'État et son régulateur, la Commission de régulation de l'énergie, d'assurer des missions d'intérêt général. Cette mission d'intérêt général principale, c'est de vous acheminer, encore une fois, l'électricité, tous les jours, quel que soit le moment de l'année, n'importe quel moment de la journée, vous devez avoir l'électricité. Alors, évidemment, il peut y avoir des fois des incidents, des coupures d'électricité ou des tempêtes qui font qu'à un moment donné, ce lien est interrompu. Mais encore une fois, c'est notre boulot. Et on a en tête, par exemple, la période du Covid, où finalement, vous avez réussi à être chacun d'entre vous dans vos maisons, à télétravailler, à faire les devoirs des enfants, à vous alimenter, à faire vos activités, parce que vous aviez l'électricité. Et nos collaborateurs ont travaillé, ont tenu le pays pendant cette période. On a, avec d'autres entreprises, tenu le pays debout. C'est une entreprise vitale pour la France et les Français.
Ça veut dire aussi que vous devez être prêt dans cette entreprise, pas comme les autres, à répondre aux besoins d'urgence en service public. S'il y a une panne, par exemple, à un moment donné, en plein week-end, c'est vous qui intervenez, Frédéric Glajoux?
Absolument, absolument. La panne qui peut arriver parce qu'il y a un incident sur le réseau doit être effectivement réparée le plus vite possible. Et lorsqu'il y a des tempêtes, comme on a connu récemment en Bretagne, sur tout le littoral ouest, nous sommes en capacité de mobiliser énormément de collaborateurs qui d'ailleurs sont volontaires pour aller aider des collègues qui sont en difficulté suite à traverser ces tempêtes-là. Et nous avons mobilisé, par exemple, pour les tempêtes Sierra et Domingos, une centaine de personnes qui sont allées prêter main forte.
Ils sont partis de Champagne-Ardenne.
Ils ont prêté main forte à leurs collègues de Bretagne. Et c'est ça l'engagement d'Enedis. C'est ça la capacité de service, de solidarité et de dévouement que manifestent nos collaborateurs au quotidien.
Enedis, une entreprise pas comme les autres, une entreprise liée au service public. Est-ce qu'on peut dire et aller jusque-là en disant, Frédéric Glajoux, que c'est une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'elle a des objectifs et qu'elle va aider aussi avec, sur le plan sociétal, une aide à apporter aux jeunes, aux moins jeunes, à la population. Bref, une entreprise presque citoyenne, on pourrait dire.
Oui, nous sommes devenus entreprise à mission depuis le 26 mai 2023. Une entreprise à mission, c'est quoi? C'est une entreprise qui, au-delà de son objet social, qui est effectivement de faire du chiffre d'affaires, qui fait des bénéfices, et c'est tout à fait normal que l'entreprise le fasse, ce sont des entreprises qui ont dans leur statut, désormais, c'est le cas pour Enedis, des objectifs sociétaux et environnementaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a embarqué nos collaborateurs sur ce sujet-là, des objectifs sociétaux et environnementaux, pour faire société. Faire société, ça veut dire être en capacité que nos collaborateurs soient engagés dans la vie de la cité, soient engagés dans la vie des territoires, soient engagés dans la vie de la société. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, puisque nous organisons des journées de l'engagement régulièrement sur nos territoires et sur nos sites.
Pour les réparations que vous entreprenez en matière d'électricité, est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de recruter des électriciens? Est-ce que vous aidez par exemple des jeunes en formation, en alternance? Est-ce que vous avez des besoins?
Oui, parce que la mission qui nous a été confiée récemment, c'est d'accompagner la transition énergétique. Cette transition énergétique, elle a pour conséquence une explosion massive des besoins en énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque, en mobilité électrique, en nouveaux usages. Et donc, nous sommes un service public en croissance qui a besoin de recruter massivement pour que nous puissions réussir collectivement cette transition énergétique. Et donc, on emploie beaucoup d'alternants, 70 en Champagne-Ardenne, et on a besoin de nouveaux collaborateurs qui s'intéressent à nos activités pour pouvoir réussir ce défi-là, cette transition énergétique. Et c'est ce que nous faisons en recréant des écoles, des réseaux de la transition énergétique, notamment avec des lycées de Reims, et j'ai en tête par exemple le lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle.
Ça veut dire que vous pensez que dans les années prochaines, on va avoir besoin, un énorme besoin, dans le domaine par exemple des électriciens, et qu'il faut vraiment secouer un petit peu le cocotier maintenant?
Oui, parce que nos métiers ne sont pas forcément attractifs comme ça, mais on peut faire des belles carrières dans notre entreprise, dans le groupe auquel nous appartenons. Et donc, avec cette idée aussi que cette entreprise-là, elle donne aussi des moyens de s'engager, comme je l'ai dit, dans le territoire, et c'est important pour moi, un cadre, par exemple, de... La société peut être un cas dans la société, c'est-à-dire avec cette envie de s'engager pour le territoire dans lequel il vit, même s'il n'y est que pour quelques temps. Et en tout cas, ce sont des métiers très intéressants, des métiers techniques qui ne sont pas réservés simplement aux hommes. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent chez nous. Mais c'est pas suffisant aujourd'hui. On a besoin de renforts à très court terme.
On sent bien, Frédéric Lajoux, que vous êtes passionné de votre entreprise, dont vous êtes le directeur territorial dans la Marne, Enedis. Je vous propose, puisqu'on arrive presque au terme de notre émission, de nous donner d'autres rendez-vous pour nous apprendre à comprendre cette politique d'engagement qui est la vôtre, cette politique de recrutement. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et nous, on reprend la main quelques secondes pour vous laisser ensuite en compagnie de Gérald Gaillet et de son invité Laurent Bastien, professeur d'histoire géo de la classe archéo au collège Anne-Franck de Saint-Dizier, qui va lui donner ses confidences à l'occasion des 10 ans. Les élèves de 6e de la classe archéologie du collège Anne-Franck de Saint-Dizier proposent une exposition décalée et humoristique sur les objets anciens découverts dans les placards de leur collège ou de leur maison.
Laurent Bastien, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au collège Anne-Franck de Saint-Dizier et vous avez la chance d'être professeur de la classe archéologie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette classe ?
Alors cette classe, elle est liée un petit peu aux recherches archéologiques qui ont eu lieu il y a une vingtaine, quinzaine d'années sur Saint-Dizier. Et étonnamment, j'étais le seul à répondre, à dire oui. Alors c'était un projet un petit peu fou, parce que j'avais jamais fait d'archéologie à l'université. Moi, j'avais fait que de l'histoire, vraiment de l'histoire classique. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas, avec ma chef à l'époque, Madame Duhal, elle m'a dit, pour préparer, et on s'est lancé, voilà, chaque année, entre 16 et 20 élèves sont inscrits pour faire de l'archéologie 2 heures par semaine.
Et pendant ces 2 heures, qu'est-ce qu'on fait ?
Durant ces 2 heures, on découvre les bases de l'archéologie, on reçoit des intervenants de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, qui ont signé une convention avec nous. On a signé une convention avec la mairie de Saint-Dizier, l'Éducation nationale et aussi l'INRAP. J'ai plein de spécialistes qui viennent. Récemment, on avait un lithicien, alors c'est un mot un peu bizarre, hein. Je dirais simplement, c'est un spécialiste des pierres anciennes qui explique aux élèves comment faire un feu comme les hommes préhistoriques. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus dur que de frotter de silex. Et puis on a la chance d'avoir un bac de simulation de fouilles, l'INRAP, à l'intérieur même du collège, donc c'est juste derrière les fenêtres de la salle de classe, on a une fosse. Et les élèves, on va dire 5 ou 6 fois par an, vont apprendre les gestes de base. Et c'est vraiment l'INRAP qui a fait ça de manière scientifique. Il y a des squelettes en plastique, il y a des poteries. Mais alors, ce sont des poteries pratiquement à l'identique. On m'a proposé d'aller dans le musée de Saint-Dizier et j'ai choisi les objets. Ces objets ont été reproduits à l'identique par un potier, ont été mis dans la fosse et chaque année, les élèves fouillent. Et quand ils ont bien acquis les gestes de fouille, voilà, on peut les emmener sur un vrai chantier de fouille pour fouiller.
Est-ce que depuis 10 ans, il y a des élèves qui ont pris cette orientation de chercheurs, de fouilleurs ?
Alors j'y réponds très très peu et on les pousse pas vraiment obligatoirement à faire de l'archéologie parce que les débouchés sont vraiment très très rares. Mais récemment, voilà, j'ai une élève, Nadia, qui aujourd'hui est service civique dans une association d'archéologie à Saint-Dizier-Archéolona. Nadia a fait des études d'archéologie. Elle est venue me voir en disant, vous voyez, c'est un petit peu grâce à vous qu'on fait ça. D'autres ont fait des études d'histoire. Mais je dirais que voilà, c'est vraiment pas notre but. Un des buts vraiment que l'on aime bien dans cette classe, c'est montrer que l'archéologie, on peut le faire dans toutes les matières. Et c'est assez amusant, mais Dans toutes les disciplines du collège, on essaye de faire de l'archéologie. Je remercie beaucoup mes collègues en éducation musicale. Ils peuvent, voilà, j'ai déjà eu un collègue qui a fait une sorte de concert préhistorique en musique. Il travaille sur les symétries à partir des mosaïques. En anglais, on va traduire un petit dessin animé d'archéologie en anglais. En français, ils vont faire un mini rapport de fouille. Voilà, je dirais que l'archéologie partout, ça va même vous donner un petit peu le sourire, mais même en EPS, en sport, ils ont fait une course d'orientation et le but, c'était de trouver des indices pour aboutir à des mots d'archéologie. Tous mes collègues, maintenant, c'est des pros de l'archéologie.
Ça veut dire, Laurent, que vous avez bien travaillé aussi avec vos collègues.
C'est pas facile d'intégrer des collègues dans une discipline vraiment très très loin. Le professeur d'éducation musicale ou d'EPS, quand je leur parle d'archéologie, la première fois, ils me regardent en disant « on n'y connaît rien ». Et moi, je leur dis « bah moi, au début, je connaissais pas non plus ». Je les aide, je leur donne des pistes et à la fin, ils ont des idées encore bien meilleures que les miennes parce qu'ils connaissent vraiment bien leur discipline. Et il n'y a pas que mes collègues, parce que on a fait des petits. Depuis, il y a une classe archéologie au collège Ortis Saint-Dizier et au lycée Saint-Exupéry, toujours à Saint-Dizier. Voilà, il y a une classe de seconde qui fait aussi de l'archéologie et même en lien avec nous.
Alors c'est normal, ils sont passés au collège, maintenant ils sont en lycée, ils veulent garder la discipline.
Ils veulent garder la discipline, mais on le fait de manière un petit peu différente. Mes élèves de sixième, ils sont tutorés par des élèves de seconde. C'est-à-dire, les élèves de seconde leur apprennent des éléments d'archéologie. Et pour être sûr que ces élèves de sixième, vraiment bien acquis, la semaine d'après, on va en maternelle. Et mes élèves de sixième vont être tuteurs de maternelle. Donc en gros, ce qu'ils ont appris des secondes, ils vont le retransmettre avec leurs propres mots en maternelle. On est un petit peu des archéo-ambassadeurs de l'archéologie. Et même, il y a quelque temps, on allait même dans une maison de retraite où là, nos élèves d'archéologie allaient présenter donc à nos anciens, à nos aînés, ce qu'était l'archéologie. Et ça plaisait vraiment à tout le monde. On va dire des 5 ans de la maternelle jusqu'aux personnes âgées, jusqu'à 80-90 ans, tout le monde fait de l'archéologie un petit peu sur Saint-Dizier grâce à nos élèves.
Alors grâce à vos élèves et puis grâce également au site Décrassé.
Et oui, le site Décrassé, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Chaque année, nos élèves vont fouiller. Alors cette année, c'est pas possible parce que le site ne sera pas réouvert car les archéologues sont en train de produire une publication sur tout ce qu'ils ont trouvé. Mais pendant des années et des années, voilà, on était sur le site Décrassé avec un taux d'encadrement qui va faire rougir l'éducation nationale. Chaque élève était tutoré par un étudiant en archéologie, un pour un. Et là, vraiment, je peux vous dire que c'était vraiment le top pour moi. Et nos élèves qui sont dans un collège plus réseau d'éducation prioritaire, où la patience, c'est pas toujours la première qualité, là, il m'a impressionné. Parce que vraiment, face à un squelette, face à une maison, des termes romains, il faut rien casser, il faut être très minutieux. Et là, ils m'ont vraiment impressionné, mes élèves.
Une exposition est en cours actuellement au Fuseau. De quoi s'agit-il?
On a voulu partir un petit peu sur un délire. Les élèves, ils me disaient, mais nous on apprend à fouiller, mais des fois il n'y a pas très loin pour aller fouiller. Il suffit juste d'ouvrir notre placard. Alors, je suis parti sur leur idée. Ils ont fouillé les placards du collège, ils ont sorti un appareil diapo, ils ont sorti un duplicateur, une fameuse renéotypeuse, voilà, que les plus anciens ont connu. Ils sont allés chez leurs grands-parents, le fer à repasser, ils ont sorti le Minitel, des vieilles cartes Michelin. Et on s'est dit, on va faire de l'archéologie contemporaine, nos élèves vont fouiller les placards. Et on s'est dit, on va pas rester au musée, on va aller dans le hall d'accueil des Fuseaux, que je remercie vraiment de nous avoir accueillis. Et en ce moment, c'est humour d'hiver. Quand les gens sortent d'un spectacle comique, ils sortent et peut-être qu'ils ont... C'est même pas peut-être, je les ai vus parce que je suis allé voir des spectacles. Ils ont le sourire et des fois, ils disent « Oh, regarde, ça me rappelle mon enfance. Oh, regarde, il y a ça. » Voilà, une sorte d'exposition décalée d'archéologie.
Eh bien, Laurent Bastien, il y a des horaires pour aller voir ou il y a des jours où il faut y aller particulièrement?
Si vous voulez y aller, vous appelez donc l'accueil des Fuseaux, qui pourra peut-être vous donner un créneau. Mais le plus simple, c'est quand la billetterie est ouverte, 3 fois par semaine, vous pouvez avoir accès à l'exposition, ou alors même avant ou après les spectacles. Et c'est toujours en libre accès. Et si vous avez envie de voir quelque chose qui vous faisait peur, le fameux cheval d'arçon qu'on a ressorti des réserves du gymnase, vous pouvez y aller, il a vraiment du succès. Je vous donne encore un autre jeu qui, lui, fonctionne très très bien, et puis je vais proposer un challenge. Les élèves ont imprimé plein de téléphones portables, des modèles de téléphones portables, et il faut faire une frise chronologique du plus ancien au plus récent. Allez-y, le meilleur score sur 20 téléphones, c'est 5 erreurs.
Allez-y, n'hésitez pas à faire ce jeu et essayez d'avoir moins de 5 erreurs.
Eh bien, Laurent Bastien, merci. On invite donc les auditeurs à aller voir cette exposition. La classe Archéo fouille vos placards, alors en l'occurrence ceux du collège et ceux des grands-parents. C'est donc dans le hall d'accueil des Fuseaux. Laurent Bastien, je rappelle que vous êtes un professeur d'histoire géo au collège Anne Frank à Saint-Dizier.
Laurent Bastien qui était au téléphone avec Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Un grand merci pour cette découverte. On vous souhaite une très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Tout de suite, l'information nationale à 19h12, la méditation sur RCF France Ardennes et le retour de vos programmes locaux sur RCF Cœur de Champagne.